Bonsoir à tous, il est 20h, vous êtes sur Radio Lodève et c'est Du bruit dans les feuilles, l'émission mensuelle de l'association Pays-Arbres. C'est Tanguy au micro, aujourd'hui on est en petit effectif et je suis accompagné de Raphaël.
Bonsoir.
Et on va quand même essayer de faire ce petit moment ensemble et que ce soit agréable pour tout le monde.
Ça le sera. Voilà, donc on va se lancer directement avec la première chronique qui est donc l'arbre du mois. Et aujourd'hui, Tanguy nous parle de l'aubépine.
Et oui, j'avais un peu du mal à choisir l'arbre du mois parce qu'en ce moment, on est en pleine période de fleurs. Et du coup, les arbres se signalent au bord des chemins par leurs nombreuses floraisons. Néanmoins, il y en a une qui est quand même assez impressionnante et que vous pouvez apprécier en ce moment si vous vous promenez un petit peu sur les sentiers forestiers. C'est l'aubépine, Crategus. Crategus, c'est le nom du genre en latin. Elles sont nombreuses les aubépines et il y en a plusieurs botaniquement parlant qui se mélangent beaucoup. Mais peu importe parce que pour ce qui nous intéresse, à savoir la reconnaître et puis ses particularités, elles ont beaucoup de choses en commun. L'aubépine, c'est intéressant. Moi, ce que je trouve intéressant déjà, c'est le nom. À savoir que en français, c'est le seul arbre qui porte un nom féminin. Alors, on en a cherché d'autres, on n'a jamais trouvé. Donc l'aubépine, pour moi, ça reste le seul représentant des arbres portant un nom féminin. C'est pas rien, hein, il faut bien le dire. Et puis, alors du coup, en ce moment, cette aubépine, elle est en fleur. On l'appelle aussi l'épine blanche, parce qu'elle a des grosses épines assez dures.
Mais blanche pour les fleurs, pas pour... Parce qu'il y a l'épine noire aussi qui existe.
Alors effectivement, on parle aussi de l'épine noire quand on parle du prunelier, dont les fleurs sont passées là. Le prunelier est plutôt du côté de l'épine noire et l'aubépine est plutôt du côté de l'épine blanche. On parle bien de la couleur des fleurs pour ce qui est de l'aubépine, mais pour l'épine noire, est-ce qu'on parle de la couleur des fruits quand ils sont mûrs? Je sais pas. Alors, pour revenir à l'aubépine, pourquoi je l'aime bien? Déjà parce que c'est complètement enchanteur, l'aubépine en fleurs. Et puis, c'est un fruit sauvage comestible. Ça fait partie de nos fruits comestibles. Alors, bien évidemment, plus personne ne mange à ces fruits qu'on appelle souvent senelle, ou bien poire du bon Dieu, ou bien il y a énormément de noms vernaculaires pour citer le fruit de l'aubépine. Il faut savoir que ce fruit, une fois sec, il est pas très bon au goût. Soyons honnêtes, c'est pas très agréable de croquer un fruit d'aubépine. Cela étant, il a beaucoup servi en farine, c'est-à-dire qu'on le cueillait et on séchait les fruits pour rajouter à la farine. Souvent, on avait peu d'espace pour faire pousser du blé et des céréales dites nobles. Et du coup, il y a beaucoup de fruits sauvages qui servaient à rallonger les farines. On a parlé du gland déjà, qui servait beaucoup à ça.
La châtaigne.
La châtaigne a servi à ça, la mélange a servi à ça. Il y a énormément de fruits sauvages qui ont servi à rallonger les farines.
Ça ressemble à quoi le fruit et puis ça a quel goût?
C'est assez farineux, un peu suave quand même dans le fond. Mais comme je le disais un peu plus tôt, c'est sûr que ça régale pas nos palais, quoi. Néanmoins, c'est assez joli, hein. À l'automne, vous avez énormément de petites boules rouges sur ces aubépines et les oiseaux en raffolent. Ça fait leur première nourriture pour le départ dans l'hiver. Voilà. Pourquoi je parlais de ça aussi? Parce que, traditionnellement, on ramasse surtout les fleurs de l'aubépine. Les fleurs de l'aubépine, elles passent très très vite. Il faut se dépêcher quand vous avez l'aubépine en fleurs. Et c'est assez long et ça dégage une odeur assez entêtante et on s'en sert parce que c'est un arbre qui a de nombreuses, on va en parler beaucoup aujourd'hui, c'est un peu la thématique de l'émission, c'est un peu se soigner par les arbres et dans ce cadre là l'aubépine c'est la plante du cœur, c'est-à-dire que c'est un régulateur cardiaque, hein. C'est attesté par les modernes, l'aubépine c'est vraiment bien si vous avez des palpitations, des angoisses, que vous voulez réguler un petit peu tout ce qui est rythme cardiaque. Voilà, c'est la plante de la circulation et du flux. Elle favorise le flux même chez nous.
Et du coup, comment... Enfin, tu prends la fleur fraîche, tu l'infuses, tu la prépares comment?
Alors la fleur, vous la cueillez effectivement. Il faut savoir quand on cueille des fleurs qu'il est bon de cueillir vraiment au tout début de la fleur. À savoir que comme ça, quand vous en avez plusieurs qui sont encore fermées, vous conservez les nectars à l'intérieur. Et une fois que vous séchez les fleurs, ça permet de les conserver mieux. Si vous prenez des fleurs complètement ouvertes, elles vont complètement se disloquer au séchage. Donc ça c'est valable, on en reparlera peut-être le mois prochain. Parce que je vous disais que j'ai hésité, le mois prochain on sera plutôt sur la floraison du tilleul. Mais c'est pareil, quand on ramasse des fleurs d'une manière générale, essayez que dans la bractée florale que vous ramassez, il y ait des fleurs fermées. Parce que ces fleurs conserveront plus facilement au séchage les qualités de l'arbre pour ce qui est du soin. Et du coup, on les ramasse, on les fait sécher sur un papier journal à l'ombre, hein, quelques jours. Et après, on va mettre ça dans un bocal pour les conserver. Et du coup, le soir, c'est une infusion qui calme, qui aide aussi au sommeil. d'une certaine manière, voilà, si vous avez des angoisses, si vous êtes jeune étudiant et que vous avez des examens, la veille, vous pouvez prendre des petites infusions d'aubépine. Ça calme parce que ça régule le flux. C'est vraiment la plante du cœur.
C'est mieux qu'un autre type d'herbe, peut-être ? Bon, je sais pas, c'est à discuter. Et qu'est-ce qu'on fait avec le bois ? Est-ce que le bois est utile ?
Le bois de l'aubépine, ben, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un arbre qui pousse très doucement. Et du coup, ben, c'est assez rare. Alors, c'est un bois qui peut vivre très longtemps. Hein. On parle d'aubépines qui ont plusieurs centaines d'années. Pour ce qui est des usages du bois, je consulte mon ouvrage de référence parce que tu m'as posé une question piège et que j'ai pas la réponse, elle me vient pas tout de suite.
L'ouvrage de référence, c'est le fameux guide...
C'est le livre des arbres de Pierre Liotagui que voilà. Je cite à chaque fois.
C'était l'occasion de le refaire.
Voilà, l'aubépine, elle a des feuilles très, comment on dit...
Reconnaissables
et très particulières. Qui sont au-delà du dentelé, elles sont complètement de forme assez bizarroïde en fait quand on la regarde.
On dirait des petites mains, je trouve.
Des petites mains ou des pieds de canard, je ne sais pas trop quoi dire, mais.
Ouais, je voyais pas le pied de canard comme ça, mais.
Bon, en fait, elles sont très variables suivant les genres et les variétés. Il y a une autre espèce dont je voulais vous parler tant que j'y suis, et ça je peux en parler parce que je le sais, à savoir que l'aubépine, elle a une voisine qu'on cultivait beaucoup, qui s'appelle l'azérole. Alors l'azérole, on est toujours chez les crategus, par contre le fruit, chez l'aubépine, il doit faire 5-6 mm. Chez l'azérole, il atteint facilement la taille d'une cerise, on est plutôt sur 2 cm de large, donc c'est à peu près le même goût, et on a donc ces gros fruits d'azérole qui servaient beaucoup plus dans la pratique paysanne, on faisait des confitures d'azérole, et puis de la même façon, on séchait le fruit de l'azérolier pour agrémenter nos farines et faire du pain. Bon, bah, cette azérole, alors, elle a l'avantage de pouvoir se greffer sur l'aubépine commune. Et cette aubépine, on la trouve à peu près partout. Dès qu'on est en sous-bois, surtout au bord des chemins où il y a un peu de lumière, on va trouver assez facilement l'aubépine. Voilà. Après, c'est rare de voir des vieilles aubépines, mais c'est assez émouvant. Hein. C'est des arbres qui poussent doucement, mais qui ont vraiment une grande longévité.
Bon, voilà. Est-ce qu'on ajoute autre chose sur l'aubépine, du coup ?
Oh ben, rajouter autre chose, non, mais vraiment, je vous invite à essayer l'infusion. Le goût est agréable. Alors, vous pouvez évidemment infuser directement la fleur fraîche, en sachant que cette floraison, elle passe très très vite. Elle passe très très vite, et donc il faut se dépêcher d'aller au bois et la ramasser. Ramasser des fleurs, ça fait partie des pratiques qu'on a un peu perdues, mais néanmoins, c'est toujours mieux que d'enrichir son pharmacien.
Voilà. Donc, testez, et puis vous nous direz si c'est bon ou pas. Moi, ça me donne envie de calmer mon petit cardiaque, mon palpitant. Et ben, on peut se faire une petite transition vers le dicton du mois. Comme on est en avril, on a évité le dicton « En avril, ne te découvre pas d'un fil hein, », qui était un petit peu passé, quoi. Et on a choisi « En avril, bas ou haut, tout arbre a son loriot ». Alors Tanguy, qu'est-ce que ça te dit ce dicton ?
Eh ben alors là, je dois donner ma langue au chat ou au loriot. J'ai très peu de connaissances en ornithologie, hein, et du coup je connais mal les oiseaux. Cela étant, donc ce dicton, bien évidemment, il fait la part belle au loriot. On a vérifié avant de venir, le loriot c'est un oiseau qui s'en va pendant l'hiver en Afrique et puis qui revient à la belle saison comme beaucoup, hein. Il y en a d'autres dans ce cas-là, donc effectivement, il fait partie de ces animaux qui réenchantent la nature au printemps, qui reviennent d'Afrique chargés de soleil, où ils sont allés se multiplier, et ils reviennent en nombre avec leur petite famille pour leur montrer un petit peu leur résidence d'été, là où il fait moins chaud, à savoir chez nous.
Donc le loriot, c'est un petit oiseau qui est à peu près la taille du merle et qui est de la même famille, si je me souviens bien. Et on parle du loriot d'Europe. Il est assez jaune. Il a tout le dos jaune. Donc je pense que vous l'avez déjà vu. Et donc effectivement, il annonce le printemps. Moi, je comprends que comme c'est un oiseau qui vit dans tout ce qui est forêt et haies, il annonce la feuillaison, en gros. Donc ça tombe bien, le mois d'avril, les arbres se parent de leurs feuilles et le loriot revient habiter sa maison naturelle. Voilà.
Alors, cela étant, pour rester sur le thème des oiseaux, il y a quand même un point sur lequel moi j'aimerais revenir, c'est l'importance de favoriser et d'accueillir des oiseaux si vous avez un verger, si vous avez un jardin. Les oiseaux, c'est des auxiliaires précieux. Alors moi, je vais parler de ceux que je fréquente beaucoup et que je vois souvent, c'est les mésanges, mésanges bleus, mésanges charbonnières. C'est très facile de les inviter au jardin, il suffit d'installer des nichoirs que vous pouvez fabriquer vous-même ou vous allez trouver des plans un peu partout, hein, dans les magazines ou sur Internet. C'est ce qui est important, en fait, c'est la taille du trou que vous allez réaliser pour rentrer dans votre petite boîte et nichoir et qui va faire le tri entre les différentes espèces qui peuvent s'installer. Alors pour les mésanges que je connais bien, rendez-vous compte que si vous avez un couple de mésanges sur votre domaine, ils vont consommer entre 30 et 70 kilos d'insectes pendant les 3 semaines nécessaires au nourrissage de leurs petits oisillons. Alors, je ne sais pas si vous imaginez le sac de 30 kilos de chenilles, mais c'est une belle façon de se prémunir contre tous ces mangeurs de feuilles qui ont tôt fait de s'installer au jardin. En ce moment, ils sont partout. Hein. Moi, je fais beaucoup le tour. On y reviendra un petit peu quand on parle un petit peu des soins au verger tout à l'heure. Les insectes sont là, papillons, à venir pondre dans vos arbres préférés. Et alors, vous pouvez avoir des pertes de feuillage importantes. Et du coup, s'aider avec les oiseaux, accueillir les oiseaux, avoir un écosystème chez nous qui leur fait la part belle, c'est une belle façon de s'adjoindre leur service, même si vous y perdrez aussi quelques fruits. Il faut savoir rétribuer le travail de chacun.
C'est de la lutte biologique naturelle. Voilà, donc on va déjà se faire une petite pause musicale. On part sur Le temps des cerises de Cora Vauquer et on se retrouve juste après.
Nous en serons au temps des cerises, et guérossignols et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerise d'amour aux robes pareilles, tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant le corail qu'on cueille en. Quand vous en serez au temps des cerises, si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. J'aimerai toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en m'étant offerte ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir.
Et voilà Le Temps des Cerises, une vieille chanson qui date de la Commune de Paris, qui parle pas que d'arbres fruitiers, hein, qui parle aussi du sang versé par les compagnons ouvriers. Voilà, on va pas s'étendre sur le sujet.
On va passer à une autre chronique que vous connaissez bien aussi, qui s'appelle « Ce mois-ci au verger ». Et donc, on continue un peu sur ce dont on discutait tout à l'heure, les oiseaux qui commencent à occuper nos haies, nos arbres, nos vergers. Est-ce qu'il y a un lien à faire avec la chronique de ce mois-ci ?
Bah oui, bah c'est ce dont je parlais avant, c'est-à-dire accueillir les auxiliaires que sont les oiseaux dans votre jardin. En ce moment, on est donc en avril et le végétal, il est à fond. C'est-à-dire que finalement, on se rend pas compte, mais les périodes où le végétal peut s'exprimer complètement en Méditerranée, elles sont assez rares parce que pour pousser, une plante, elle a besoin essentiellement de chaleur et de lumière, mais aussi d'humidité. Et du coup, la seule période où tout ça s'est cumulé et où le végétal peut s'exprimer dans son entièreté, c'est vraiment cette fin de printemps, là, avril, mai, juin. Après, le soleil estival va calmer tout ça. Donc c'est vraiment pendant ces 2 mois qu'il faut être très attentif parce que tout se passe maintenant.
Et il y a un petit regain aussi en septembre, après les orages. Moi, j'appelle ça un deuxième printemps, mais c'est beaucoup plus faible. Et il y a vraiment un regain aussi.
Effectivement, à l'automne, en septembre, on retrouve un petit peu ces conditions optimum, à savoir chaleur et humidité. Mais en ce moment, on est au cœur de l'histoire. Et donc, ça pousse énormément dans votre verger. Si vous avez des arbres fruitiers dans le jardin, la meilleure façon de traiter, et c'est d'être attentif. C'est d'aller les voir régulièrement, de vous promener et de bien regarder vos arbres. Alors, régulièrement, on voit des tas de feuilles qui sont tous collées ensemble. Alors là, souvent, c'est une ponte d'un papillon. Et à l'intérieur, vous allez avoir une centaine de chenilles prêtes à partir à l'assaut de votre arbre. Je vous garantis que si vous les laissez grandir, vous risquez d'avoir des arbres vraiment avec très peu de feuilles. Donc tous ces prédateurs feuillus, et ben si vous passez assez tôt et que vous voyez le petit nid, ben écrasez-le entre vos doigts, les petites chenilles qui sont à l'intérieur y perdront la vie et vous gagnerez du temps
et des fruits
et vous garderez des arbres en bonne santé. Vraiment, se promener, c'est la meilleure façon de traiter les arbres. Se promener et être très attentif à ce qui peut arriver. Vérifiez bien qu'il n'y ait pas des petits tas de sûres au pied de l'arbre qui pourraient être un signe de la présence du zezer, par exemple chez le pommier. Ça fait des petits tas de sûres rouges. Et ça veut dire qu'il y a un ver qui est en train carrément de manger le cœur de votre arbre. Donc avec un fil de fer, vous pouvez aller le déloger si vous le repérez de bonne heure. Donc être attentif, faire attention, il y a des insectes dont il faut vraiment se méfier. Je pense au capnode aussi. Le capnode, c'est un espèce de scarabée. Il est tout noir et il a la tête blanche. Et alors lui, comme beaucoup, il partage avec d'autres insectes la capacité de prendre la sève directement et de se nourrir de la sève. Ça, c'est un moindre mal, mais surtout pareil, de la même manière que le zezer, il va aller pondre sa larve au cœur de l'arbre. Il pond au niveau du collet. Et pareil, donc maintenez bien vos arbres sans herbe au pied, ça vous permet aussi de contrôler le collet de l'arbre. C'est un point important en arboriculture, c'est-à-dire l'endroit où ils sortent de sol. C'est souvent là que ces insectes, à la zezer ou capnode, vont faire leur ponte. Donc si vous voyez des petits trous et un peu de sûre, d'où l'intérêt d'avoir le pied de votre arbre assez propre pour y regarder de plus près, ça vous permettra de le voir au plus tôt. Donc voilà, être attentif et réagir maintenant, c'est une bonne façon de se prémunir contre les attaques des ravageurs.
Et je viens de greffer mon arbre. Qu'est-ce que je fais au printemps ?
Alors, si vous êtes greffeur et que vous avez le bonheur de voir pousser votre greffe, c'est pareil. Alors là, soyez encore plus attentifs parce que vous avez très peu de bourgeons. Il suffit d'un insecte qui vient manger votre bourgeon et votre greffe, elle est finie. Donc, passez la voir régulièrement. Ça, c'est vraiment la première chose. Et puis ensuite, surveillez que vous ayez mis une protection justement qu'il n'y ait pas des oiseaux qui puissent se poser sur votre jeune greffe, ou que vous ayez bien mis une protection pour le vent. Hein. Une jeune greffe, c'est extrêmement fragile la première année. Donc, il faut être encore plus, il faut redoubler d'attention.
Et enlever tout ce qui est, moi j'appelle ça des gourmands, mais je ne sais pas s'ils appellent tout ce qui pousse en dessous de la greffe et qui pourrait pomper la sève au détriment de la greffe.
Alors ça, tu fais bien d'en parler. Sur votre départ en végétation, tous vos arbres fruitiers, d'ailleurs que ce soit vous qui ayez réalisé la greffe, donc que vous l'ayez greffé tout seul dans votre jardin, ou que vous soyez allé chez le pépiniériste pour acheter un arbre, dans tous les cas, votre arbre fruitier, il est greffé sur un porte-greffe. On en parle souvent dans ce studio. Ce porte-greffe, il n'est pas forcément de la même variété que le fruit qui pousse. Et donc tout ce qui pousse en dessous du point de greffe, il faut absolument l'éliminer. Moi, il n'est pas rare que je visite des jardins et il y a une question qui revient finalement assez souvent. qui est de dire regarde, ça, il y a quelques années, j'ai acheté un abricotier et puis l'arbre qui pousse, il me fait des prunes. Je comprends pas ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, c'est simple, c'est que vous avez laissé une petite pousse sous le point de greffe et puis finalement, ben, cet abricot, il était greffé sur un prunier. Souvent, c'est le prunier mirobolant qui est très utilisé par les pépiniéristes. Et ce prunier mirobolant, ben, il a repoussé en dessous du point de greffe. Et la nature, préférant tout le temps alimenter ses propres tissus, va plutôt alimenter le bois du prunier qui sert de porte-greffe que le bois de l'abricotier qui a été greffé dessus. Et au fur et à mesure des années, ce prunier va prendre le dessus et votre greffe va mourir finalement, elle va se dessécher et vous allez perdre les bénéfices de cette greffe. Donc ça, bien évidemment, dès que vous avez un arbre fruitier dans votre jardin, faites bien attention à tout ce qui est rejet du pied, voire même les drageons qui vont finalement fatiguer l'arbre et qui vont empêcher la bonne fructification et le bon développement de l'arbre fruitier que vous souhaitez conserver.
Merci Tanguy. De la bonne santé de l'arbre, on va passer à la bonne santé de l'être humain. Et donc, on passe à la chronique Chasseur de son. Donc, Tanguy, tu as rencontré Florence Braque qui t'a parlé de gémothérapie. Explique-nous un peu.
Eh ben, c'était une jolie rencontre. Il y a quelque temps, j'ai donné un stage de greffe dans l'Aude et puis j'ai rencontré Florence qui est venue se former à la greffe avec nous. Et elle m'a parlé de ce qu'elle faisait, elle, de son côté. Entre autres, elle étudie la gémothérapie. La gémothérapie, c'est se soigner avec le bourgeon des arbres. Voilà, alors c'est une pratique assez moderne finalement, en tout cas qui est validée par un... Mais elle va nous parler de ça beaucoup mieux que moi parce que j'y connais pas grand-chose. Je sais qu'il y a de nombreuses personnes aujourd'hui qui se tournent vers ce type de traitement. Cette année, on m'a contacté plusieurs fois pour connaître des stations où on pouvait trouver le sorbier domestique, le saule, le tilleul. Et du coup, j'ai indiqué à ces jeunes chercheurs en gémothérapie l'endroit où ils pourraient trouver ces essences. Parce que le principe, c'est d'aller récolter des bourgeons juste avant qu'ils débourrent, c'est-à-dire au moment où toute l'énergie est concentrée et où le bourgeon est en train de s'ouvrir. Voilà. Et ben, du coup, je vous propose d'écouter ce son qui en dira un peu plus que moi sur la gémothérapie et de se retrouver après pour en faire le commentaire.
Eh ben, bonjour Florence, écoute, j'étais content de te rencontrer parce qu'on parle beaucoup d'arbres ici sur du bruit dans les feuilles et y a une thématique dont on n'a encore jamais parlé, mais moi j'en ai déjà entendu parler à quelques reprises, mais je ne connais pas bien et du coup, comme j'avais la chance que tu viennes visiter mes petits travaux sur ma campagne, je t'ai proposé d'enregistrer ce petit son pour venir parler de gémothérapie. Au-delà de ça, je pense que tu pourrais commencer par te présenter, nous expliquer un peu ce que tu fais dans la vie, et ça serait un bon début.
Alors bonjour Tanguy, donc je m'appelle Florence, je vis à Sumène, et ce que je fais dans la vie, c'est surtout autour des plantes. Donc je fais plusieurs choses différentes, j'organise des sorties botaniques où j'emmène les gens sur le terrain pour faire de la reconnaissance de plantes. C'est surtout autour des plantes médicinales, donc dans le but de ramasser des plantes pour se soigner. Et ensuite, on peut faire une cueillette et on peut, à la suite de cette cueillette, faire un atelier de transformation où on met les plantes à macérer dans de l'huile, dans du vinaigre. On peut faire des baumes, on peut faire des sirops. Et on peut aussi faire donc de la gémothérapie. Et à ce moment-là, on fait une préparation qui s'appelle un macérat glycériné.
D'accord. C'est assez proche des teintures mères.
Oui, alors dans l'idée, ça vient de l'homéopathie. Donc les teintures mères dont tu parles, c'est ce qui va servir à monter les dilutions en homéopathie. C'est une macération qu'on fait dans de l'alcool. Et c'est normalement, je crois, au dixième du pois sec. Donc il y a toute une formule et un protocole particulier à suivre. Et la gémothérapie, c'est inspiré de l'homéopathie, notamment pour ces histoires de protocoles et de pois sec. Mais aussi pour ce qu'on appelle la mémoire de l'eau. Alors ça, c'est quelque chose d'un petit peu compliqué. Ça a à voir avec ce qu'une substance peut laisser comme empreinte dans un liquide.
Comme trace.
Comme trace, voilà. On commence déjà à parler d'information.
Ouais, j'entends bien, c'est assez technique, mais ça veut dire que, on est bien d'accord, la gémothérapie, le produit premier qui va nous servir,
oui.
Et c'est d'ailleurs ça qui m'intéresse, moi, dans le propos, on va partir donc de bourgeons d'arbres.
Oui, alors pas seulement de bourgeons, gème, ça veut dire jeune tissu. Donc nous, souvent quand je parle de gémothérapie, les gens me disent « Ah bon, avec les pierres ?» parce qu'ils pensent aux gemmes précieuses. Donc effectivement, gemme, ça peut être un cristal qui constitue la pierre. Mais nous, ce qu'on entend par gemme, c'est le bourgeon, ou alors la jeune pousse, ou alors la radicelle. Donc c'est vraiment un jeune tissu, mais ça peut être végétal, pas seulement minéral. Et nous, on utilise des bourgeons, et des jeunes pousses et des radicelles.
Et c'est les bourgeons qu'on ramasse à n'importe quelle période de dormance, ou on les ramasse au printemps, là, comme en ce moment ou...
Oui, alors il faut que la montée de sève commence, et en fait on ramasse le bourgeon au moment où il commence juste à s'ouvrir, c'est-à-dire qu'il est encore fermé, mais on voit qu'il est en train de s'ouvrir. C'est vraiment un moment très particulier et assez court, et c'est ce qui fait un petit peu la difficulté et le suspense de la gémothérapie, c'est qu'il faut être là au bon moment.
Il faut être là au bon moment, comme j'imagine pour beaucoup de substances végétales dont on peut avoir usage pour se soigner, c'est d'intervenir au bon moment. Même quand on ramasse des fleurs, finalement, il faut les prendre au bon moment. Ça passe vite, une fleur aussi, et puis c'est assez rare comme instant. Effectivement, c'est une vraie convocation, quoi. Il faut être sur le terrain à l'heure dite.
C'est ça. Le mieux, c'est d'avoir, si on n'allait pas les plantes vraiment directement autour de soi, le mieux, c'est d'avoir des indiques dans les différents endroits où on ramasse qui peuvent nous dire, bon, ben là, c'est pas loin, il va falloir commencer à venir voir et à faire quelque chose, quoi.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des essences qui sont plus utilisées que d'autres, ou est-ce qu'on utilise est-ce que toutes les essences arborées se prêtent à des préparations?
Alors, en théorie, je suppose que toutes les espèces, les essences arborées pourraient se prêter à la gémo. La gémothérapie, c'est quelque chose qui est assez récent. Ça a été inventé dans les années 60 par le docteur Paul Henry. Et lui, il s'est concentré sur une soixantaine d'essences d'Europe occidentale, en fait. Donc, on n'a par exemple pas du tout des choses sur des arbres exotiques. On a vraiment des choses sur des arbres qui nous entourent ici.
D'accord, quand tu dis Europe occidentale, c'est pas forcément la Méditerranée non plus.
Non, c'est pas forcément la Méditerranée. Et justement, ça pose certaines questions parce que, par exemple, ce que lui a étudié et écrit, en fait, par exemple sur l'aubépine, c'est sur l'aubépine, pas celle qu'on a ici. C'est sur l'aubépine oxyacanta et pas sur la monogina que nous
avons. Ah oui, on a monogina ici. Voilà. Crategus monogina, c'est le nom latin de l'aubépine.
Oui. Donc il y a plusieurs... sur le chêne aussi, par exemple, on utilise le chêne pédonculé et pas, comme chez nous, le chêne pubescent.
D'accord. Alors, pour la petite histoire, je cite souvent l'aubépine, c'est le seul arbre qui a un nom féminin. Celui qui en trouve un autre, je suis preneur. Souvent les plantes, et les plantes dites de sorcières qui servent au traitement, c'est souvent des petites plantes. C'est vrai que c'est assez rare, finalement, qu'on trouve des médecines avec les arbres. Comme si le domaine des arbres était plus réservé à, était moins réservé aux sorcières et plus aux humains de sexe mâle. C'est des questions qui m'interrogent, moi, ces histoires de genre et de plantes. Mais bon, là, je m'éloigne un peu du propos. J'ai appris que tu venais faire un truc à l'ODEV. Alors, tant que tu es au micro de Radio l'ODEV, peut-être que tu peux nous faire un peu de publicité pour la prochaine intervention que tu fais en l'ODEVois, d'autant que, à la base, ce n'est pas une thématique végétale, parce que tu m'as dit que tu donnais des cours d'occitan, c'est ça?
Alors, j'ai eu donné même il y a longtemps maintenant des cours d'occitan au Cercle Occitan du l'ODEVois à l'ODEV. Ça s'est arrêté, enfin, pour ma part, ça s'est arrêté en 2010, mais je sais que le Cercle Occitan continue sa route. Et par contre, ils m'ont demandé de revenir avec une sortie sur les plantes médicinales sauvages du COS en occitan. Donc ça ne sera pas que en occitan, ça sera aussi en français. Mais ça sera donc une sortie qu'on va faire le dimanche 14 mai.
Quand tu dis du COS, ça veut dire que vous allez faire ça sur le plateau?
On risque de monter sur le plateau. On n'a pas complètement défini l'itinéraire, mais on envisage de monter sur le plateau, oui.
D'accord. En tout cas, si vous voulez plus de renseignements, il faut contacter le Cercle Occitan l'ODEVois. C'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Bon, ben voilà, c'était une petite part de l'agenda qui suivra. Florence, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Moi, ça m'intéresse bien, cette histoire-là, mais c'est vrai qu'on ne va pas rentrer dans des considérations trop techniques. En tout cas, voilà, si vous aviez des doutes, les arbres peuvent nous servir aussi bien à se nourrir, mais aussi à se soigner. Et encore une fois, ils participent de l'enchantement du monde, et je te remercie d'être venu partager ton savoir avec nous.
Merci à toi, Tanguy.
Salut, Florence.
Salut.
Bon, ben voilà, c'était un son fort intéressant. Moi, j'ai une petite question quand même qui reste sur les usages. Je me demande quelles propriétés on peut trouver, qu'est-ce qu'on peut soigner ou renforcer avec ça, mais peut-être que ce sera l'occasion d'une prochaine discussion.
Je pense que ça dépend beaucoup des essences utilisées et que sûrement. Chacune ont des applications différentes, quoi. Voilà, je sais qu'il y a des gens en Lot-et-Vois qui s'intéressent à ça aussi, donc ça sera peut-être l'occasion d'approfondir le sujet sur la gémothérapie une prochaine fois. Et puis, ben, vous avez entendu pendant le petit son que Florence serait parmi nous, en tout cas en Lot-et-Vois, le 15 mai prochain. Le 14 mai prochain, c'est un dimanche, et qu'il faut contacter le centre Occitan Lot-et-Vois.
J'en profite, moi, pour... on parle de santé, et du coup, je voulais juste vous parler d'un petit bouquin que j'ai lu. C'est un roman, hein, c'est rien du tout... Enfin, voilà, c'est pas du tout technique. C'est un petit roman qui s'appelle « Little Big Bang » de Benny Barbache. Et l'histoire en deux mots, c'est... on est en Israël, c'est écrit du point de vue d'un petit garçon dont le papa est très gros. Et ce monsieur veut maigrir. Donc il essaie plein de régimes alimentaires, des tonnes et des tonnes, ça marche jamais, jusqu'au jour où il fait un régime à base d'olives essentiellement, et il manque de s'étouffer avec un noyau. Et juste après, peu après, il y a un olivier qui lui pousse dans l'oreille. Donc voilà, c'est l'histoire de cet homme qui va de médecin en médecin pour essayer de trouver une solution à son olivier qui lui pousse réellement dans l'oreille. Et bah voilà, on est en Israël, c'est donc le conflit israélo-palestinien, et ça m'a fait penser à ce que dit souvent Tanguy à propos de l'arbre et de l'altérité. Et là, pour moi, ce bouquin, il parle d'apprendre à vivre avec l'altérité, quoi. Cet homme, à la fin, il a pas trop le choix, quoi. Il doit se résoudre à vivre avec son olivier parce que c'est extrêmement douloureux si on lui enlève. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'est un joli bouquin, c'est bien écrit, c'est assez drôle, c'est pas très gros. Vous pouvez le trouver à la médiathèque de l'ODEV, aux éditions Zulma. C'est donc Little Big Bang de Benny Barbache.
Merci Raphaël pour cette petite chronique littéraire. c'est complètement effrayant. Hein. Moi, je me souviens quand j'étais petit, à chaque fois que j'avalais un noyau de cerise, on me disait bah, tu vas voir un cerisier qui te pousse à l'intérieur. Donc voilà, n'ayez pas peur, ça n'arrive pas en vrai, dans la vraie vie. Même si vous avalez un noyau, peut-être même que vous allez contribuer à ça.
Dispersion.
Multiplication et à sa dispersion, suivant l'endroit où vous allez vous vider vos intestins.
Bref, passons maintenant à notre dernière rubrique qui est l'agenda. Qu'est-ce qu'on propose pour nos auditeurs ce mois-ci ou dans les semaines à venir ?
Eh ben, dans les semaines à venir, c'est un peu plus calme, à savoir qu'on est sorti de la période de grève printanière, de la période de grève à œil poussant, hein, qui est quand même... une activité qu'on propose beaucoup en termes de stages et de pratiques, de venir nous accompagner. Voilà, à ce sujet, un petit retour en arrière, j'avais envie d'en parler. On était dimanche dernier, enfin celui encore d'avant, le dimanche 9 avril, on était au bord du Salagou, à Selles. Et on a fait un stage de greffe sur une parcelle qu'on greffe maintenant depuis, c'est la troisième année où on travaille là-bas. Et ça commence à être très beau, c'est-à-dire que, bon, bien évidemment, c'était déjà très joli, hein, le cadre est complètement magnifique. On est au bord du Salagou, à Selles, ce village qui cherche à renaître de sa disparition annoncée, hein, qui devait être ensevelie sous les eaux du lac et puis qui est toujours là. Et à côté de ce village, on a posé notre regard il y a quelques années avec Martin, sur les Pyrrhus spinosa qui l'entourent. Le Pyrrhus spinosa, c'est un poirier très piquant, qu'on appelle aussi poirier à feuilles d'amandier, et qui a la particularité d'être un très bon porte-greffe pour la poire domestique. Et quand on a vu le nombre de poiriers qu'il y avait derrière le village, on s'est dit qu'en fait, le verger était déjà là, qu'il n'y avait plus qu'à le greffer. Et c'est ce qu'on s'applique à faire depuis 3 ans. Et ben, au jour d'aujourd'hui, le verger porte ses premiers fruits sur de nombreux arbres, et puis ben, on continue à le greffer depuis 3 ans, on est à, je sais pas, il y a 30 ou 40 arbres maintenant qui ont été greffés, ça pousse, c'est beau, vous pouvez vous promener, c'est une façon de développer du fruit pour tout le monde sur le territoire de la commune de Selles, et je vous invite vraiment à cette petite promenade. Dans les invitations que j'ai envie de vous faire aussi, si vous êtes en Lot-et-Vois, on a un autre endroit où on a installé pas mal d'arbres fruitiers par la greffe avec l'association, c'est le chemin des Tuyères. Le chemin de Tuyères, c'est celui, c'est le GR7 qui monte vers la Vierge et vers la carrière anciennement des Tuyères, qui était une carrière où on extrayait des lauzes pour la construction des mazets un peu partout sur la vallée. Et ce chemin, il passe au-dessus de la sortie sud du tunnel de l'autoroute, et puis il continue à monter jusqu'à la route de la Vierge. Et sur les bords de ce chemin, vous allez pouvoir cette année vous régaler avec des cerises, avec des prunes qu'on a greffées sur les porte-greffes qui poussaient spontanément. C'est pareil, je vous invite à cette promenade aussi. Et puis voilà, d'une manière générale, je vous invite à aller vous promener. On vit une région On vit dans une région absolument superbe et ça serait vraiment dommage de ne pas en profiter, quoi.
Je veux juste, pardon, je te coupe un peu. Je voulais juste revenir sur Celle et dire que notre intervention à Celle, elle est possible parce que le propriétaire de la parcelle se charge de nous la confier. Et donc, c'est aussi l'occasion de le remercier. Il s'intéresse beaucoup à ce qu'on fait. Il nous soutient en nous mettant à disposition cette parcelle et en nous faisant confiance.
Oui, il fait lui-même partie d'une association qui s'appelle Vivons Celle et qui cherche à redynamiser le village de Celle pour y installer de la vie. Et voilà, les arbres en font partie. On est très heureux d'accompagner ce projet et très heureux que ça se fasse comme ça et que ça pousse.
Donc à l'occasion de votre prochaine baignade ou de votre prochain pique-nique au lac du Salagou, faites un petit tour. Voilà, c'est juste derrière le village, sur la gauche. Enfin, quand vous avez le village à droite, c'est sur votre gauche et vous verrez les greffes, vous verrez les arbres qu'on entretient.
Voilà, j'en profite aussi pour rappeler qu'on est toujours à la recherche des vieux arbres. À Celle, on en profite d'avoir cet endroit pour un petit peu centraliser toutes les poires qu'on a trouvées sur le territoire. Donc de la même manière, il y a Raphaël qui me fait un geste et j'ai pas compris ce qu'elle voulait me dire. De la même manière qu'on centralise les poires là-bas, et ben on a besoin d'en trouver encore d'autres. Je suis sûr qu'au fond de votre jardin, vous avez un poirier qu'on connaît pas encore. C'est des poires qui sont adaptées à notre pays, à notre territoire. C'est vraiment important de les sauvegarder. La greffe, c'est le moyen de sauvegarder les vieux arbres fruitiers. Encore une fois, si vous avez des vieux arbres, n'hésitez pas à contacter l'association.
Et mon petit geste mal approprié, c'était pour te montrer sur le calendrier la date du 13 mai et que tu n'oublies pas de nous dire qu'est-ce qui se passe le 13 mai.
Ok, on approche de la fin de cette émission, c'est le moment de parler de l'agenda. Et effectivement, c'était le début de l'histoire. Comme je vous disais, donc on a moins de stages pratiques à vous proposer là tout de suite, ça reviendra à l'automne. D'ici là, vous invitez aussi à rejoindre l'association parce qu'il faut savoir qu'avec les adhérents, on entretient 3 parcelles quand même. Il y a des promesses de fruits, de cerises, de prunes, d'abricots, d'amandes, tout ça sur nos vergers collectifs. Donc si vous êtes adhérent, vous recevrez des informations qui sont pas publiques. Et oui, les adhérents sont privilégiés pour venir avec nous entretenir ces jardins. Il va y avoir pas mal de soins, ça pousse aussi l'herbe, il faut entretenir tout ça. Donc rejoignez-nous aussi pour nous aider sur les parcelles collectives et pour accéder à ces fruits de qualité qui vous attendent.
Sur l'agenda. Le 13 mai.
Alors voilà, on va y arriver, je vais y arriver. Le 13 mai, j'ai été invité par la médiathèque de l'Odève à faire une balade que j'ai appelée balade sensorielle. Alors j'ai pas encore vraiment déterminé l'itinéraire, mais l'idée c'est d'aller explorer la campagne proche en partant du centre-ville. Le rendez-vous c'est à la médiathèque à 14h30. C'est le samedi 13 mai.
Et l'idée, c'est de parcourir le territoire, de parcourir un petit sentier et de découvrir ce qu'il y a autour de nous avec nos sens, j'imagine, balade sensorielle, le goût, le toucher, l'odorat.
C'est-à-dire, c'est la seule chose dont on soit muni pour percevoir le monde. Hein. Nos sens, ils servent à ça. Et dans ce monde, les arbres sont au centre.
Bon, allez, on conclut. Les contacts de Paysarbres que vous connaissez désormais maintenant. Donc l'adresse internet, l'adresse email, paysarbres, PAYSARBRE, @mailou.org, mailou, MAIL2O.org.
Voilà, et puis le site internet, il y a un nouveau, hein, je suis en train de travailler d'arrache-pied sur un nouveau site internet, c'est paysarbres.org. Si vous tapez paysarbres dans un moteur de recherche, vous risquez de nous trouver aussi, aussi bien sur le blog que sur le site internet, vous avez des formulaires de contact, on recevra l'information si vous prenez le temps de l'envoyer. Je vous remercie beaucoup de votre écoute attentive, je suis toujours très heureux d'être là au studio, je pense que Raphaël partage mon émotion.
Merci Radio Lodève.
Merci à Radio Lodève pour la technique. On se retrouve le mois prochain pour Du bruit dans les feuilles. Merci à vous. Et à bientôt.
Et on se quitte encore en musique avec Pierre Perret, notre ami, qui nous chante « Je suis vert de colère ».
Je suis vert, je suis vert de colère contre ces pauvres types qui bousille la terre, cette jolie terre que nos pères, nos grands-pères avaient su préserver durant des millénaires. Les rivières écument, les usines fument, les moutons mangent leur papa changé en granulés,
Les déchets ultimes, la vache font leur prime, sont un petit cadeau du ciel de nos industriels.
Je suis vert, 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 je suis vert de colère contre ces fossiles qui bousillent la terre.
De Brest aux Maldives vont à la dérive des poubelles radioactives jusqu'au fond des lagunes. Et même sans tapage, des maires de villages en enterrent dans leur commune pour faire entrer des thunes.
Je suis vert, 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 je suis vert de colère contre ces fossiles qui bousillent la terre.
Les blés, les patates sont bourrés de nitrates, on shoot aussi bien les veaux que les champions au niveau. On se fait les tartines au beurre de dioxine, en voiture on a le point vert pour doser nos cancers.
Je suis vert, 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 je suis vert de colère contre ces fossiles qui bousillent la terre.
Sous la couche d'ozone, l'oxyde de carbone tue nos forêts si précieuses autant que les tronçonneuses. L'air pur s'amenuise, nos sources s'épuisent, mais colorants, salmonellose nous font la vie en rose.
Je suis vert, 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 je suis vert de colère contre ces fossiles qui bousillent la terre.
Pour qu'il n'y ait pas de panique, leur poison transgénique, ils les nomment science de la vie ou biotechnologie. Leurs gènes font la nique aux antibiotiques. Pour guérir nos infections, faudra de l'inspiration.
Je suis vert, 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 je suis vert de